Bienvenue dans le podcast Féminisme Initial. Ce podcast est présenté en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quatre étudiantes de Sciences Po Paris, Carla, Camille, Colline et Aurore. Nous sommes passionnées par les questions féministes et nous collaborons ce semestre avec le HCE pour la conception de ce podcast. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à ce lieu important de la lutte féministe associative de nous accueillir. Féminisme Initial a pour objectif de démocratiser des termes et concepts féministes pour tous les publics de 7 à 107 ans. Pendant une quinzaine de minutes, nous vous présenterons des mots-clés du vocabulaire de l'égalité et des droits des femmes et nous questionnerons le fond de ces notions avec des invités d'une grande diversité, qu'elles et ils soient élus, chercheuses et chercheurs, institutionnels, militantes ou militants, qui viendront nous apporter leur regard aiguisé sur ces questions.
Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la notion de prostitution en présence de Céline Pic et d'Hélène Le Bail. La prostitution est le fait d'avoir un rapport sexuel contre de l'argent. Elle est un phénomène social qui peut être qualifié selon le positionnement politique, de métier ou de système. Ce phénomène est très ancien et a revêtu au fil des siècles différentes caractéristiques et pratiques. En 2015, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF, estime qu'il y a 30 000 personnes, dont 10 000 mineurs, qui se prostituent en France. Parmi elles, la MIPROF évalue que 85% sont des femmes, 10% des hommes et 5% des personnes transgenres, 93% des prostituées étant étrangères. Selon cette même étude, 38% des prostituées ont subi un viol au cours de leur vie, contre 6,8% des femmes dans la population en général. Pour revenir brièvement sur l'histoire de la prostitution, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France comptait 1500 maisons closes reconnues officiellement. C'est par la loi de 1946, dite loi Marthe-Richard, que la France adopte un régime dit abolitionniste. Les maisons closes ferment et la France entend lutter fermement contre le proxénétisme. Au fil des années, la réglementation de la prostitution évolue et le racolage n'est plus considéré comme un délit, jugé trop difficile à réprimer, il fait alors l'objet d'une simple contravention. À partir des années 1970, des voix se font entendre dans l'espace médiatique pour demander la décriminalisation du métier et la création d'un impôt sur la prostitution. Certaines prostituées veulent la reconnaissance de leurs droits, un statut, la sécurité sociale et la fin de la répression policière contre les maisons closes. Le syndicat du travail sexuel, STRAS, se crée en 2009 à l'issue des assises européennes de la prostitution. Celui-ci revendique notamment l'appellation « travailleurs et travailleuses du sexe », des droits de la protection sociale, mais aussi la dépénalisation du proxénétisme. Après des débats enflammés au Parlement, les clients de la prostitution sont officiellement pénalisés par la loi du 13 avril 2016, portée par Daniel Bousquet, Maud Olivier et Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des Femmes. Cette loi a quatre objectifs. Renforcer la lutte contre le proxénétisme, améliorer la prise en charge des personnes victimes de prostitution, favoriser un changement de regard sur la prostitution et responsabiliser les clients de la prostitution. Son but est d'inverser le regard, en responsabilisant le client, considérant que la personne prostituée est une victime qu'il faut aider, avec, pour corollaire, le refus de toute marchandisation des corps. Cependant, dans les faits, cette loi n'est pas réellement appliquée par manque de moyens alloués et de volonté politique. Toutefois, certaines critiques pointent le manque d'engagement des pouvoirs publics, freinant l'application concrète de la loi, un manque de moyens policiers pour le démantèlement des réseaux de traite et de proxénètes, et un manque également de financement pour l'accompagnement des personnes prostituées. Finalement, cette loi est aujourd'hui très critiquée par de nombreuses associations qui dénoncent la dangerosité qu'elle représente pour les prostituées. La prostitution doit s'effectuer de manière cachée, à l'abri de la répression policière, en faveur des clients, ce qui peut précariser encore davantage les personnes qui se prostituent. Le but de ce podcast est de mettre en perspective les différentes opinions concernant la prostitution, de questionner la loi de 2016 et de comprendre les différents enjeux qui se jouent à travers la question de la marchandisation des corps des femmes. Et pour cela, nous avons deux invités de renom, Hélène Le Bail et Céline Pic.
« Bonjour Céline Pic, merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes donc porte-parole d'Oser le Féminisme. Oser le Féminisme, on le rappelle, c'est une association de plaidoyer et d'éducation à l'égalité, donc présente dans plus de 25 villes en France. Et donc vous êtes, vous, très engagée dans la lutte féministe contre les violences masculines, viols, violences conjugales, violences prostitutionnelles aussi, contre les stéréotypes sexistes, pour une éducation sexuelle et affective féministe, pour les filles et pour les femmes. Vous êtes aussi économiste et vous êtes également autrice d'un premier essai politique, Déviriliser le monde, donc vous êtes sorti il y a quelques mois, en 2022, début 2022. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, on va pouvoir vous poser quelques questions sur le thème de la prostitution. Ma première question sera, quelles sont d'abord les valeurs portées par l'association Oser le Féminisme en matière de prostitution?
Alors, Oser le Féminisme, comme son nom l'indique, est féministe. Et je pense qu'il faut quand même se rappeler que, historiquement, le féminisme s'est toujours opposé à la prostitution, qui était perçue comme la marchandisation du corps des femmes. De tout temps, toutes les grandes féministes depuis jusqu'à il y a récemment étaient toutes d'accord sur le fait que on ne pourrait pas atteindre l'égalité femmes-hommes tant que les hommes se sentaient légitimes à acheter le corps des femmes, à payer pour pénétrer sexuellement une femme. Et donc ça soit, je cite d'ailleurs dans le Déviriliser le monde, toutes les féministes qui de tout temps se sont opposés à la prostitution. Alors je cite bien sûr Françoise Héritier, Gloria Steinem, Gisèle Halimi, Andrea Dworkin, mais aussi Victor Hugo, bien entendu, Louise Michel, Joséphine Butler, la première abolitionniste, et tant d'autres, qui se sont toutes mises d'accord. Et donc c'est perspective historique que nous nous situons et qui est de dire que le contrôle sexuel des femmes est au cœur du patriarcat et que, comme la violence conjugale, comme le viol, la prostitution est intrinsèquement une violence sexuelle. Et on n'atteindra pas l'égalité tant que on pourra acheter le corps des femmes.
Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, deuxième question, quelle place attribuez-vous aux effets que vous percevez comme nocifs donc de la prostitution dans le système patriarcal?
En fait, la prostitution, je pense qu'est l'acmé. Enfin, moi, j'écoute des survivantes de la prostitution depuis des années, des survivantes aussi de femmes qui ont été violées dans l'industrie pornographique. Et je pense que la prostitution est même l'acmé des violences masculines, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'a très bien dit Dworkin, ce n'est certainement pas un travail. Ça, c'est Gloria Steinem qui le dit. Pourquoi Gloria Steinem, une grande féministe américaine également, 50 ans de militantisme derrière elle et tant de combats et tant de luttes incroyables, disait il y a 2-3 ans de ça quelque chose de très simple. La prostitution implique l'invasion de son propre corps et donc ce ne peut être un travail comme un autre. Alors pourquoi je l'appellerais travail du sexe? C'est l'équivalent d'un viol tarifé et donc au lieu de pénaliser les prostituées, les proxénètes devraient être poursuivis et les clients éduqués. C'est là aussi extrêmement fort et je pense que on a aujourd'hui malheureusement une sorte d'écran de fumée. Vous savez que dans le féminisme, ce qui est extrêmement important, c'est de travailler sur les mots. Et bien sûr, dans les débats qui agitent les mouvements féministes sur la question de la prostitution, il y a effectivement le mot prostitution, le mot travail du sexe. Je récuse bien sûr le mot travail du sexe pour une simple raison qui a été très bien expliquée par Gloria Steinem dans cette citation, c'est que dans un travail, vous avez des tâches à faire, vous avez une fiche de poste. Donc vous pouvez effectivement utiliser votre corps de façon physique, un maçon par exemple qui construit un mur, ou par exemple une caissière qui va comme ça porter des marchandises sur son tapis roulant toute la journée, bien sûr, utilise son corps. Même une masseuse utilise son corps. Mais la différence essentielle, c'est que la masseuse, elle a une compétence. Elle a une compétence spécifique et elle va dire au client, allongez-vous, et c'est moi qui vais décider, en tant que masseuse, de poser mes mains ici ou de poser mes mains ici et de masser cette partie du corps ou de masser celle-là. Dans la prostitution, ça n'a strictement rien à voir. Quand vous êtes dans la prostitution, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de produit. En fait, le produit, c'est la femme que vous achetez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez payé quand vous êtes un homme, eh ben, en fait, le corps d'une femme, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais c'est l'homme qui est actif et qui va décider de faire une fellation, de faire une pénétration anale, de vous insulter, de vous cracher à la bouche, de vous éjaculer dessus. Donc, les violences qui sont commises sont des violences qui sont commises par les hommes sur les corps des femmes. Et l'acte d'achat d'actes sexuels réifie, c'est-à-dire transforme cette femme en produit, en objet sexuel. Donc on est vraiment au cœur du système de la domination patriarcale. C'est exactement les mêmes mécanismes que le viol, c'est que les hommes se sentent légitimes à imposer des rapports sexuels contre le gré de la personne qui est en face. Et la contrainte, bien sûr, c'est une contrainte économique, parce qu'il faut rappeler quand même que n'importe qui n'est pas dans la prostitution. Ça, c'est les chiffres du SDFE, du secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes. Alors, premièrement, la première enseignement, c'est que depuis l'instauration de la loi en 2016, et donc la pénalisation des clients par une contravention, il y a eu 6000 contraventions émises par l'État français. C'est peu par rapport aux 40 000 femmes en situation de prostitution en France. Et bien, devinez quoi, sur ces 6000 contraventions, il y a eu 100% d'hommes. 100% d'hommes. Il n'y a eu aucune femme depuis 2016 à avoir été pénalisée pour avoir acheté le corps d'une femme, d'un enfant ou d'un homme. Ça, c'est la première statistique. Donc, la prostitution est un phénomène sexiste. Deuxième chiffre qui devrait nous inciter à ne pas considérer cela comme un travail, c'est qui sont les personnes en situation de prostitution. Nous avons 85% de femmes, 15% d'hommes ou de personnes trans, mais essentiellement, à écrasante majorité, 85% de femmes. Ça aussi, donc, on est bien sur quelque chose où ce sont des hommes qui achètent globalement des femmes, mais aussi des enfants, puisque la prostitution des mineurs, et en particulier ces dernières années, avec l'émergence d'Internet, en forte augmentation. Et troisième chiffre qui devrait nous alerter que ce n'est pas un travail, 93% des personnes en situation de prostitution sont étrangères. Donc, entre nous, ce n'est ni vous, ni moi qui serons jamais dans la prostitution. Ce sont essentiellement des migrantes, victimes de réseaux de traite d'êtres humains. Et en particulier, en Europe, on connaît les filières de traite. Les filières de traite, elles viennent de Nigeria, en particulier, avec des femmes, des jeunes filles, souvent mineures, qui arrivent et qui se voient lester d'une dette qu'elles doivent rembourser à leurs passeurs et donc mises en esclavage sexuel, mais aussi également des pays de l'Est. Donc on a des filières roumaines, on a des filières bulgares et on a des filières également ukrainiennes. Pour dire que, un, la prostitution ne sera jamais un travail, ce n'est pas un travail, ni du sexe d'ailleurs, c'est une violence sexuelle, et que oui, le modèle français est bon, même si aujourd'hui, il est effectivement sur la loi. Et là, on peut revenir sur la loi. La loi, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'inverser la charge. Elle permet d'inverser la charge, et ça, c'est essentiel. La loi, elle a permis justement la dépénalisation des personnes en situation de prostitution, puisqu'elle a supprimé le délit de racolage passif. Avant, c'était les prostituées de tout temps. Les prostituées ont été la cible, en particulier de la police. Elles étaient harcelées, poursuivies. Là, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il y a une inversion de la charge. Et ce que dit la loi, c'est augmenter la lutte contre le proxénétisme, favoriser l'éducation sexuelle pour promouvoir une sexualité qui soit librement consenti, ça c'est extrêmement important et ce n'a pas été fait, et puis également responsabiliser le prostitueur en instaurant effectivement cette contravention qui est entre nous peu cher payée pour effectivement acheter le corps d'une femme nigériane trafiquée.
Merci énormément et puis on va aller lire le livre, on va aller lire Déviriliser le monde.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Bonjour Hélène Lebaille, vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales. Vous êtes diplômée en langue et civilisation chinoise à l'INALCO. Vous êtes actuellement chargée de recherche au CNRS et vos travaux portent sur les migrations chinoises au Japon et en France, ainsi que sur les politiques migratoires dans une perspective comparée. Vous avez un intérêt particulier pour l'étude des routes migratoires féminines, incluant les thématiques du mariage, du travail reproductif et du travail du sexe, ainsi que les questions de mobilisation et d'action collective. En 2021, vous avez écrit un article de recherche académique paru dans les presses de Sciences Po intitulé « On sex workers, women, ladies, sex workers and the contrasting definitions of safety and violence » que l'on peut traduire en français par « Les travailleuses du sexe ne sont-elles pas des femmes ?» Dames, travailleuses du sexe et définition contrastée de la sécurité et de la violence. Vous avez également coécrit le rapport d'enquête publié en 2018 par Médecins du Monde intitulé « Que pensent les travailleuses du sexe de la loi prostitution ?» enquête sur l'impact de la loi du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel. Merci d'être avec nous. Alors, quelle différence faites-vous entre l'usage du terme travailleuse du sexe et prostitution ? Et pourquoi choisissez-vous de parler de travail et de travailleuse du sexe ?
Alors, c'est une question hyper compliquée, mais aucun des deux termes sont des termes académiques. Hein. Tous les deux sont largement politiques, donc c'est effectivement un choix pour les chercheurs d'utiliser l'un ou l'autre. Le terme prostitution, c'est un terme qui a quand même une connotation très négative, qui renvoie à l'idée d'être souillé, d'être sali, et qui en général est rejeté par les personnes concernées elles-mêmes. On n'a pas envie qu'on les considère comme des prostituées, parce que c'est pas un terme valorisant. Le terme de travail du sexe, c'est un terme qui est militant, qui vient pour le coup des personnes concernées, qui est mis en valeur par ces personnes concernées, qui est défendu. Donc effectivement, c'est un terme également très politique. Mais qui a l'avantage d'abord de venir des personnes elles-mêmes, donc qui n'est pas une assignation qui vient de l'extérieur, mais un terme qui vient des personnes concernées. Ça a l'avantage aussi, en tout cas en anglais, sex worker, d'être aujourd'hui le terme le plus utilisé, aussi bien par les personnes que par les institutions et organisations internationales. Et puis c'est un terme qui a pour avantage de mettre en valeur le côté de capacité d'action, si on veut traduire la fameuse notion de agency en anglais. En tout cas, cette notion d'autonomie, de choix éventuel. Ce qui fait que, effectivement, ça peut exclure une partie des personnes qui se trouvent dans ce champ d'activité, mais pour lesquels on pourrait utiliser d'autres termes, d'autres catégories, telles que celles de victimes, d'exploitation, victimes de la traite des êtres humains.
Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler du rapport d'enquête délivré par Médecins du Monde, paru en 2018, portant sur l'impact de la loi de 2016, dite de lutte contre le système prostitutionnel ? Quelles sont les principales conclusions de ce rapport ?
Alors, je vais donc d'abord vous parler du rapport en lui-même. C'est un rapport qui, effectivement, est d'abord paru sur le site et qui a été largement soutenu par l'association Médecins du Monde, l'ONG Médecins du Monde. Mais en fait, c'est un rapport qui est vraiment très collectif, qui a été réalisé par 11 associations différentes avec un protocole très mutualisé, collectif, un comité de pilotage où on était très nombreux. Et dans ce comité de pilotage se trouvaient, entre autres, des travailleurs et travailleuses du sexe, et puis essentiellement même que des associations de terrain qui sont en contact quotidien avec les personnes concernées. Donc on a mis en place une importante enquête avec plus de 70 entretiens en face à face, des groupes focus, des entretiens avec les associations en plus, donc au bout du compte on était à une centaine d'entretiens, tout un travail ethnographique également, puis de connaissance du terrain, et puis une petite enquête qui avait été faite à la fin pour confirmer ou non les résultats. Donc les principaux résultats de cette enquête, si j'essaye de les résumer 4 ans plus tard, c'était d'abord de confirmer des choses qui avaient été pressenties dès le départ, à savoir que toute forme de répression, que ça vise les personnes concernées ou que ça vise leurs clients, en fait, tend à réprimer ou à donner une image négative de l'ensemble des personnes qui sont concernées. Donc, c'est pas du tout une loi qui a permis de déstigmatiser les personnes et qui a plutôt, en fait, permis de considérer, de recréer de l'impunité pour les personnes qui pourraient les viser pour toutes sortes de violences, hein, que ce soit des vols, des viols, des injures dans la rue, des crachats, etc. Donc déjà, c'est pas du tout une loi qui a permis de les protéger, de les remettre en valeur dans leur quotidien. Et puis c'est une loi qui a très clairement écarté les personnes des réseaux de solidarité qui sont des éléments très très importants pour la sécurité, les amener à travailler dans des endroits plus reculés, des endroits moins visibles, perdre le contact avec les associations, perdre le contact en particulier pour les personnes qui vivent avec le VIH, perdre le contact avec leur médecin et leur traitement. Donc voilà. Pour peut-être les principaux résultats, mais il y en avait bien d'autres.
Et en s'appuyant sur vos enquêtes avec les personnes se prostituant et vos travaux de recherche, quelle serait selon vous la réglementation légale la plus adaptée en France ?
C'est une question qui est vraiment compliquée parce qu'on essaye de comparer ce qui se passe dans les différents pays, sauf que dans chaque pays, ce qui va complètement changer les choix, ça va être par exemple la présence ou non de nombreux immigrés, de personnes en situation irrégulière pour lesquelles les réponses, les solutions ne vont pas forcément être les mêmes. Ça dépend aussi de la taille du pays. Par exemple, on prend beaucoup comme exemple la Nouvelle-Zélande, qui est un des pays qui a complètement déspécifié dans la loi le travail du sexe et qui applique donc la loi commune pour les travailleuses du sexe dans tous les aspects. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays beaucoup plus petit. Est-ce que ça peut marcher partout ? Voilà, c'est un vrai questionnement. Donc c'est toujours difficile à partir des comparaisons de dire, bah voilà, c'est ici la bonne solution ou c'est là. Moi, je pense, et donc à partir aussi des retours de terrain, de l'écoute des parcours des personnes et de où se trouvent leurs difficultés. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des lois qui prennent en compte la diversité des situations, qui reconnaissent qu'il y a des personnes qui font ça par choix, parce que je pense qu'il faut le reconnaître à un moment, qui reconnaissent que pour d'autres, il faut peut-être, non pas des lois, mais des dispositifs particuliers. Il y en a déjà en France, en fait, des dispositifs particuliers d'aide à la sortie de prostitution, d'aide à la sortie de la traite, des réseaux de traite. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir des lois qui sont beaucoup plus diversifiées pour prendre en compte l'ensemble des situations.
Comment la loi française peut-elle lutter efficacement contre les systèmes de traite et de trafic d'êtres humains tout en protégeant les travailleuses du sexe ?
C'est vraiment un point important parce que la loi de 2016 a été présentée entre autres, mais quand même en grande partie, comme devant s'intégrer dans le travail de lutte contre la traite des êtres humains. Et quelque part, ça nie en grande partie le fait que beaucoup de personnes qui font cette activité ne sont pas victimes de traite des êtres humains et que c'est même une minorité des personnes qui sont victimes de traite des êtres humains. Alors, elles peuvent être victimes d'exploitation, elles peuvent être victimes d'avoir été trompées par un passeur au moment de la migration, mais voilà, la traite des êtres humains, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus précis. Donc ce qui fait que voilà, je pense que il faut appliquer les lois en fonction, enfin les lois qui existent en fonction des problèmes. Donc appliquer la loi de la traite des êtres humains pour les personnes qui sont effectivement réellement victimes de traite humaine, et puis protéger les autres pour celles qui en ont besoin, pas pour celles qui en ont pas besoin, avec d'autres solutions voilà adaptées. On parle beaucoup de la traite des êtres humains, mais dans la loi française, il y a d'autres aspects de la loi qui sont des régulations spécifiques au travail du sexe et qui posent problème, et en particulier tout ce qui porte sur le proxénétisme. Le proxénétisme tel qu'il est défini en France, c'est une des définitions les plus larges parmi tous les pays européens sur le proxénétisme, où il est effectivement impossible d'avoir quelqu'un qui assure la sécurité des personnes, il est impossible de louer un appartement à une personne qui ferait du travail du sexe, et en fait les effets de ça sont parfois sont source de violences très importantes. Donc je prends par exemple l'exemple du proxénétisme hôtelier, donc l'interdiction de louer une chambre ou de louer un appartement à quelqu'un qui travaillerait dans cette activité. En fait, ça entraîne quoi ? Ça entraîne souvent que les personnes vont louer des droits d'entrée dans les appartements qui sont extrêmement élevés, qui peuvent aller autour de 10 000, 15 000 euros. Ça entraîne aussi que de peur de perdre cet appartement parce que du coup, il faudrait repayer des sommes aussi importantes, et ben, quand on se fait attaquer, quand on se fait voler, quand on se fait taper, on ne va pas porter plainte parce qu'on risque de perdre l'appartement. Donc il y a un certain nombre de lois comme ça qui vont extrêmement loin et qui ne sont pas du tout protectrices. Donc si on veut protéger les personnes, à un moment, il faut aussi réfléchir et voir dans quelle mesure ce type de lois sont en fait source de violence.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci d'être venu sur notre podcast.
Merci beaucoup.
Merci à nos deux invités, Céline Pic et Hélène Lebaille, d'avoir accepté d'intervenir dans ce 6e épisode du podcast Féminisme Initial consacré à la prostitution. Le HCE réaffirme régulièrement son engagement abolitionniste vis-à-vis de la violence prostitutionnelle qui désigne tout acte sexuel imposé aux victimes par l'argent et la contrainte financière. Pour en apprendre davantage sur la prostitution, vous pouvez consulter le rapport du HCE 5 ans après, renforcer et harmoniser sa mise en œuvre pour répondre aux urgences sur le terrain, sur le site du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le prochain épisode de Féminisme Initial, nous parlerons d'écoféminisme en compagnie de nos deux invités, Sandrine Rousseau et Réjeanne Sénac. Merci de nous avoir écoutés sur Féminisme Initial.